J'ai
Aujourd'hui, tu penses?
86 ans, vous savez.
Je sais,
Il y
oui.
a une chose qui, malheureusement, ne fonctionne pas parfaitement, c'est la mémoire. J'ai quand même d'assez bonnes informations sur la fondation de la sixième section. On peut dire que la fondation est née d'abord dans l'esprit et dans les conversations et la collaboration qu'ont eue pendant qu'ils étaient tous deux à Strasbourg, après la Première Guerre mondiale, Lucien Febvre et Marc Bloch. Ils avaient décidé de fonder une revue, ce qu'ils ont fait en 1929, et Marc Bloch y a tenu sa place aussi éminente, me semble-t-il, que celle de Lucien Febvre, mais ils avaient déjà projeté à ce moment-là que une institution vienne conforter, si l'on peut dire, l'action de la revue. Et ils avaient déjà envisagé que cette institution soit de donner vie à la sixième section encore inexistante de l'école pratique des hautes études. D'autre part, je dois dire que je suis venu, en ce qui me concerne, puisque ce sont surtout des souvenirs personnels que vous me demandez, mais vous le voyez, j'essaye aussi d'évoquer ce qui peut apporter des informations sur l'histoire de l'école. En particulier, ben, je tiens encore une fois à souligner le rôle très positif de Gaston Berger. Et je suis venu à l'école, je vous expliquerai ensuite en quoi cela va m'amener à dire encore quelque chose sur l'école en général, de la façon suivante. J'ai passé l'agrégation d'histoire la première année, et c'était dans le milieu des historiens un fait considéré comme la Grande Révolution. Fernand Braudel avait été désigné comme nouveau président du jury d'agrégation. Ce qui fait que beaucoup d'agrégatifs comme moi, nous nous sommes précipités aux hautes études, quatrième section, où enseignait Lucien Febvre. Je dois dire avoir été déçu par l'enseignement de Lucien Febvre et par l'enseignement de Braudel. Dans mon souvenir, aussi bien Lucien Febvre que Braudel, et j'avais l'impression que Braudel en cela imitait un peu Lucien
Oui.
Febvre, comment dire, dans leur séminaire, étaient très accrocheurs. Je n'irai pas parler du baratin, c'est pas le bon mot, mais qu'ils cherchaient davantage, disons, à séduire qu'à instruire. Mais j'ai eu une grande révélation qui a été le séminaire et ensuite la personne même de Maurice Lombard. Alors, Maurice Lombard, j'y allais parce que c'était lui qui représentait le Moyen-Âge à la quatrième section, bien que il était spécialiste du Moyen-Âge musulman, qui n'était pas du tout mon orientation. D'autre part, je dois dire que je devais ma réussite et ma bonne réussite, si je peux dire, puisque j'ai été troisième à l'agrégation, à Maurice Lombard, qui était le correcteur et qui a dit, au moment où on reçoit les candidats, après les résultats et puis ensuite à d'autres occasions, excusez-moi de dire ça, mais ça fait partie de l'histoire, que la copie que j'avais rendue était une des meilleures choses qu'il ait jamais eues. Ceci pour vous expliquer que c'est vers Maurice Lombard que je suis allé. Et j'ai expliqué à Maurice Lombard ma situation. Je lui dis, écoutez, voilà, mon temps d'assistant va être terminé. Je n'ai pas écrit ma thèse. Je vous avoue que je n'ai pas très envie de retourner dans l'enseignement secondaire, pas du tout que je le méprise, mais c'est parce que ça empêche pratiquement d'avoir suffisamment de temps pour faire de la recherche, ce qui est malgré tout mon principal objectif. Est-ce que vous pensez que je pourrais avoir un poste, même modeste, à la sixième section? Il m'a dit, écoutez, cher ami, comme me l'avez-vous dit, après l'agrégation, je me serais débrouillé pour vous faire entrer tout de suite. Je lui ai dit, monsieur, je n'avais pas encore toutes les capacités voulues, j'ai un peu plus de bouteilles maintenant. Il me dit, écoutez, je vais en parler à Fernand Braudel, parce que Braudel était devenu, à la mort de Lucien Febvre en 56, comme vous l'avez rappelé, président de la sixième section. Et 2 ou 3 jours après, Maurice Lombard me téléphone et me dit, cher ami, Braudel a été ravi et vous serez nommé à la rentrée. Ça avait un drôle de nom, par l'équivalent d'assistant. Je suis entré comme chef de travaux à la sixième section en 59, que je suis devenu chef de travaux,
Maître
maître
assistant.
assistant, parce qu'on a créé
Ouais.
ce poste à ce
C'était le
moment-là.
premier. Vous étiez
Ouais,
le premier.
ouais.
Ah oui.
Maître assistant, et j'ai été élu directeur d'études dès 62. Voilà. Si je devais résumer la passion que j'ai eue pour ce qui est devenu l'école des hautes études en sciences sociales, pour ses horizons, pour son activité, c'est le fait précisément qu'elle ouvrait les horizons les plus larges, que elle considérait que presque tout ce qui avait laissé une trace, trace est d'ailleurs le titre d'un très bel essai d'un Italien qui était très proche des annales, Carlo Ginzburg, était un type une source, était une source. Et d'autre part, qu'il y avait ce dialogue permanent qui allait au-delà du dialogue, qui était une sorte de mariage, si je peux dire, entre les sciences sociales, c'est-à-dire l'histoire, la géographie, l'économie, la sociologie et l'ethnologie. À ce moment-là, j'ai évidemment été présenté à Fernand Braudel. Fernand Braudel s'est montré à mon égard d'une extrême gentillesse et il m'a demandé d'être son assistant à la présidence de la Société internationale d'économie dont il était le président. Et je me rappelle d'être avec lui en cette qualité, par exemple à Munich, où cette société s'est trouvée, et je dirais un peu sous le prétexte de travailler pour cette société internationale d'histoire économique, il m'a souvent convoqué pour soit répondre à ses questions, faire une recherche, participer à une réunion à l'endroit où était alors située la présidence de la sixième section, qui était dans une petite rue près des
Oui,
Champs-Élysées.
rue de la Baume.
Rue de la Baume. Voilà. Rue de la Baume. Et comme j'étais très peu connu, Fernand Braudel m'a suggéré de faire un séminaire en commun sur le Moyen-Âge avec Robert Philippe, qui était aussi un jeune
Parlez-moi de
historien.
Robert Philippe, parce qu'il a
Hein.
très vite disparu de la sixième section.
Il a très bien disparu de la vie, hélas. peu de temps avant sa mort, nous avons fait effectivement un séminaire ensemble. Alors, Braudel dirigeait la sixième section en grande partie par le charme. Et d'autre part, alors, il était, je dois dire, très autoritaire en fait. Il avait une façon quasi dictatoriale de mener la sixième section, contrebalançant cet autoritarisme par ce qui n'était en fait, je dois le dire, qu'un certain semblant de consultation. Il avait désigné une dizaine de jeunes directeurs d'études dont j'étais, qu'il réunissait une fois toutes les six semaines, chose comme ça, et à qui il soumettait des problèmes qu'il avait déjà résolus. Je vous dis ceci parce que je dois à la vérité. Je tiens à redire mon admiration pour Fernand Braudel. J'étais encore à l'école normale supérieure quand apparut La Méditerranée au temps de Philippe le Bel et j'ai été ébloui. Mais ébloui au sens lumineux du terme. Ce n'était pas l'éblouissement qui vous fait perdre votre lucidité. C'est l'éblouissement qui vous envahit à la fois de savoir et de bonheur. D'autre part, je dois reconnaître que je dois à Fernand Braudel une partie importante de la place que j'ai pu prendre à la sixième section. Sur quoi est arrivée l'année 1972 ? En 72, Fernand Braudel avait 70 ans. Et, étant, je dois dire, très imbu de lui-même, il était fermement persuadé que le ministère allait faire une exception pour lui et qu'il allait être prolongé de façon exceptionnelle. Il m'avait dit, à la fois par gentillesse, par précaution et par calcul, que si par hasard, il n'y croyait pas, si par hasard, il était obligé de prendre sa retraite, il souhaitait que ce soit moi qui lui succède. Et je dois dire que moi, j'en ai parlé à beaucoup des nombreux amis que j'avais parmi les directeurs d'études, mais je leur ai dit ce qui était la vérité. Que si on se trouvait dans cette situation, j'obéirais en quelque sorte à Fernand Braudel, puisque c'est presque lui qui m'aurait désigné comme son successeur, mais que j'avais l'intention, si j'en avais donc le pouvoir, de démocratiser l'école de haute études. Parce que malgré l'aura qu'avait la sixième section sous Fernand Braudel, ça restait un peu sa chose, disons. Je savais par ailleurs que je n'avais pas l'étoffe de Fernand Braudel, que si je l'avais voulu, je ne l'aurais pas pu. Et j'étais à cet égard, si je peux dire, un peu rassuré, parce que je pensais, pour dire la vérité, que je me pensais capable de diriger, mais d'une façon plus démocratique, collégiale, l'école, sans avoir le prestige mérité de Fernand Braudel. Ce qu'il y a, c'est que le ministère n'a rien voulu savoir, ce qui a rendu Braudel. Donc il a été très heureux de mon élection, et moi j'ai très rapidement tenu ma parole, qui n'était pas du tout, je peux le dire, c'était pas du tout un truc électoral, mais c'est parce que je pensais qu'une école même si je n'avais pas l'envergure de Fernand Braudel ou de Lucien Febvre, ne pouvait être ainsi la chose, il faut bien le dire, d'un seul homme. Ceci dit, je vais vous dire dans un instant que j'ai malgré tout tenu à ce que le président garde une place de premier rang. Bon. Alors, il fallait s'entendre essentiellement avec le ministère. La première chose que j'ai faite, c'est que j'ai élaboré avec ce qu'on appelait les membres du bureau, qui, avec Braudel, étaient des marionnettes, que j'ai tenu à être des gens ayant leur personnalité, leur existence. Et là, j'ai eu un immense bonheur. C'est que j'avais proposé, en étant persuadé qu'il me refuserait, d'être membre du bureau, ce qui exigeait un certain nombre de tâches administratives et une réunion une matinée par semaine. J'ai donc proposé à Roland Barthes et il a accepté. Bon, j'avais de très bonnes relations avec Roland et je suis sûr qu'il l'a fait en partie par amitié pour moi. Ensuite, je crois que il avait envie d'avoir un enseignement qui lui permettrait de faire passer ses idées et que être membre du bureau renforçait son pouvoir d'enseignant. Enfin, vous savez, c'était quelqu'un qui était curieux de faire des expériences. Il avait, visiblement, il me l'a dit d'ailleurs, l'envie de faire l'expérience de l'administration. Et je dois dire que c'est un souvenir pour moi vraiment, j'emploie un mot galvaudé, impérissable, parce que chaque matinée de chaque semaine, nous discutions, il y avait beaucoup de choses à discuter, et presque tout, vers la fin de la réunion, quand ça restait 20 minutes peut-être, encore à une réunion que nous étions décidés à arrêter, sauf nécessité, je ne me rappelle plus si c'est midi ou midi et demi, il demandait à nous entretenir d'une idée. Et je dois dire que dans un milieu où pourtant les idées ne manquaient pas, nous nous trouvions vraiment transportés, je ne sais pas quoi, sur l'Olympe, bien entendu, nous devons y réagir. Je veux dire que par là, que non seulement je crois la présence, il m'avait promis de ne rester, je crois, que 2 ou 3 ans, hein, de Roland Barthes au bureau a donné à cette école un surplus de prestige. Mais en même temps, je pense que la façon qu'il avait d'élever nos esprits est restée. On allait dans une sphère supérieure. D'autre part, j'ai voulu présenter un projet collectif et que pour cela, j'ai convoqué à Royaumont la quasi-totalité. Et pas seulement des directeurs d'études, quand je voulais qu'il y ait aussi des grades inférieurs, si je peux dire, pour que nous discutions de ce qu'il fallait chercher à obtenir du ministère d'une part, et d'autre part, quelles orientations scientifiques et intellectuelles nouvelles il y avait à proposer.
Et en quoi elle était nouvelle par rapport à Fernand Braudel, par rapport à la sixième section, ces orientations que vous avez cherchées ensemble dans cette réflexion collective?
Vous savez, Fernand Braudel était sous la coupe d'un conseiller qui était d'ailleurs de très grande qualité, quoique très bizarre de comportement, qui était un Américain,
Kemen Seller.
Clemenceau, qui, je dois dire, est quelqu'un qui était très intelligent et qui a fait beaucoup pour l'école, même s'il était quasiment insupportable. Je vous dis tout, hein.
Mais oui,
Je
mais
dis aussi bien le bien que le
oui.
mal que je pense. Et alors, Clemens Keller donnait une orientation un peu américaine, si je peux dire quand même, à l'école. Et en particulier, il avait fait diviser l'école en aires culturelles, et c'était la notion fondamentale. Je dois dire que je n'aimais pas beaucoup ça, que j'ai moi-même poussé autant que j'ai pu à l'internationalisation, mais moi, vous savez, c'est dû à ma formation française. Vous savez que les Français préfèrent en général civilisation à culture. Et à ère culturelle, je préférais dire multiplicité des civilisations et rapport entre civilisations. Alors, je me suis préoccupé de ce que le projet, aussi bien administratif que scientifique, que j'ai proposé au ministère, ait été élaboré collectivement et avec la bénédiction de Brodel, à qui je suis allé le montrer.
Il avait du mal, hein?
Ça a été
Il n'a pas supporté de.
le début de
Ouais.
nos mauvaises relations. Parce qu'il voyait en moi un pur et simple continuateur, et il me voyait prendre des initiatives qui n'allaient pas contre ses orientations, ni contre ses propres sentiments, mais enfin, qui étaient un peu différents, c'est pas lui. Bon. Alors, j'ai donc réussi, si vous voulez, pour l'anecdote. Je peux vous dire un petit fait amusant. Nous étions parvenus à la quasi-veille de la signature des nouveaux statuts. Il restait trois ou quatre questions à mettre définitivement au point. C'était l'été. Nous avons été invités par un ami commun qui était l'historien de l'art Hubert Damisch et sa femme dans la maison qu'il possède à Belleville, dans un site splendide. Et ils ont invité Soisson et sa femme, parce que la femme de Soisson travaillait avec la femme de Damisch à la télévision, et ils ont invité moi et ma femme, et au menu, si je puis dire, il y avait la discussion sur les points qu'il restait à préciser définitivement. Et Toisson m'a dit déjà que, vous savez que j'aime beaucoup Hubert, et Hubert Damisch, mais cette affaire ne concerne que vous et moi. Qu'est-ce que ça vous dit si nous allions parler en nous baignant? Et nous sommes allés dans une crique qui est dans la partie orientale de Béline, que je revois dans un endroit superbe, et personne. Nous étions, on descendait par un petit chemin, et tout de suite, il y avait du fond, on n'avait pas pied, et c'est en nous baignant que nous avons réglé ces problèmes pendant, je ne sais pas, peut-être 20 minutes, une demi-heure, en nous baignant. Et quand nous sommes remontés pour aller nous sécher et nous changer, c'était fait. Les statuts étaient définitifs. Alors j'ai fait voter par l'Assemblée des enseignants les statuts et j'ai fait voter par l'Assemblée des enseignants élargie aux maîtres assistants et à des représentants des chefs de travaux, conseil administratif et le conseil scientifique. Pour le conseil administratif, je n'ai pas nommé tous les membres parce que le ministère en a désigné un certain nombre de membres extérieurs. Mais ce que j'ai obtenu du ministère, c'est que le président de l'école était président de l'Assemblée des directeurs d'études, ce qui est normal, était président du Conseil scientifique, ce qui n'était pas normal.
Par rapport aux universités, c'était dérogatoire.
Oui, c'était dérogatoire. Ouais. Et surtout, j'ai obtenu, et je me bats, qu'il soit aussi président du Conseil d'administration. Ouais. Parce que je vous avoue que l'idée de voir une personnalité extérieure importante, parce que c'était forcément quelqu'un d'important. Alors j'ai dit que j'acceptais vice-président très très haut placé, etc. Le vice-président d'ailleurs que m'a donné Soissons, si je m'abuse, c'était un très bon ami à moi, c'était René Raymond. Voilà, et alors, c'est avec ces institutions, donc beaucoup plus démocratiques, normales, que j'ai lancé l'école des hautes études en sciences sociales, et j'avais conservé de Fernand Braudel une autre habitude, peut-être un peu élitiste, mais quand même pas se dissimuler qu'il y a une part d'élitisme dans des établissements de ce genre. Vous savez, moi-même, j'étais ancien élève de l'école normale supérieure et j'estime que les grandes écoles, si elles n'étouffent pas, les universités ont leur rôle à jouer. Et je le pensais également, et j'avoue que je préférais, plutôt qu'être à l'Assemblée des présidents d'université, d'être à l'Assemblée des directeurs de grandes écoles, où j'étais avec l'administrateur du Collège de France, le directeur du muséum, etc. Mais je faisais encore une chose qui là m'éloignait un peu, si on peut dire, de la démocratie, mais encore une fois, il y avait un prestige à entretenir, et surtout, je ne le voyais pas en termes de prestige social, mais en termes de contenu scientifique, il y a quand même des gens qui étaient plus forts dans leur domaine scientifique. Donc, j'invitais une ou deux fois par mois un directeur d'études qui me semblait plus important que les autres et à qui je demandais des conseils.
Alors qui, par exemple ?
En les conseils et en tête à tête. Raymond Aron, en qui j'ai découvert un homme charmant, très intelligent, ça ne m'étonnait pas, mais charmant. J'ai d'ailleurs, à travers ça, conservé de très très bonnes relations avec sa fille, qui est quelqu'un de très remarquable, Dominique Schnapper, qui est quelqu'un de formidable.
Et comme géographe, Mallory, il était aussi...
Mallory, Mallory, oui, effectivement, était un de mes... interlocuteur privilégié. Je me rappelle même qu'il m'a fait venir dans un colloque qu'il avait organisé à Rouen et où il y avait des délégués inuits. Ils ont été un homme très très intelligent et en même temps j'étais intéressé par la collection qu'il dirigeait.
La collection qu'il a créée où il a publié les Distros, Terre humaine.
Et bien que j'ai eu dans mes études à la Sorbonne des malheurs avec cette discipline, qui je dois dire, je parle franchement avec vous, était enseignée par des cons.
La géographie.
Je suis en fait fasciné par la géographie et je trouve que une des bonnes choses de l'habitude de l'éducation en France, c'est d'avoir accolé l'histoire et la géographie. Et là aussi, Lombard m'avait boissé, il m'avait dit « L'histoire se fait toujours dans un lieu. » J'avais annoncé à mes collègues, non pas du tout pour avoir un atout de plus, pour me faire élire, parce que, vous savez, en 72, j'avais donc 48 ans. Et Je voulais demeurer chercheur, écrire des livres, produire. Et je savais que j'ai réussi à faire mon séminaire. Pendant les 5 années où j'ai été président, mais je n'ai écrit un ou deux articles, pas plus. Donc ça, j'ai cédé la place au bout de 5 ans. 5 ans comprenant ce qui s'était fait sous l'Ancien Régime et sous le Nouveau. Voilà, qu'est-ce qu'il me reste à dire? Il me reste à dire ce que j'ai fait dans mon domaine et qui a eu un peu d'influence sur des domaines voisins. D'abord, dans cette fraternisation, si je peux dire, entre sciences sociales, une des choses que j'ai faites pendant et qui est à mon avis un de mes succès, pendant ma présidence, je m'excuse de le dire, c'est que l'économie, c'était plus rien à l'école. Parce qu'il restait quelques anciens directeurs d'études sympathiques, intelligents, mais qui étaient des juristes. Brodel n'avait curieusement pas eu d'ouverture sur ce milieu. Et alors j'ai dit qu'il fallait absolument que nous faisions venir des économistes de poids.
Et comment vous la voyez maintenant, cette école?
Voyez-vous, je la regarde sans m'y mêler en quoi que ce soit. En quoi que ce soit.
Oui.
Je ne donne aucune lettre de soutien, je ne dis rien. Oui. Je me félicite de l'élection de François Veil, pour qui j'ai une très grande estime.
Oui.
Mais bon, je pense qu'elle va avoir l'épreuve de délocalisation. Je pense qu'elle s'en sortira.
Oui.
Je pense qu'elle s'en sortira. Je pense qu'elle a atteint sa taille maximum et je souhaite que vraiment elle s'en tienne là. Qu'elle s'en tienne là. Et que de toutes ces sciences sociales,
oui,
celle qui, bon, j'étais le plus proche et qui m'a le plus appris, je dois dire, ça a été l'anthropologie.
Oui.
Et j'ai donc donné à mon séminaire titre anthropologie historique de l'Occident médiéval. Et si vous regardez un document qui est très intéressant, vous le savez beaucoup mieux que moi, qui est l'affiche de l'école, vous verrez que plusieurs collègues ont adopté cette expression anthropologie historique. C'est, je pense, peut-être un des petits apports. Dernier mot, je crois que ce qui est essentiel dans nos disciplines, c'est la multiplication des sources. Je crois l'avoir un peu pratiqué en tant que médiéviste, mais je pense que chacun de nous, dans ces domaines, doit s'adresser à des types de documents qui, à première vue, n'apparaissent pas comme susceptibles d'être des sources et qui, en fait, peuvent l'être, comme vous-même le faites, par exemple, pour les sources orales.
Voilà,